la question numéro 2 porte sur l'économie et son mode de développement. L'Europe fait-elle le nécessaire pour sortir nos économies de la crise ? L'Europe nous prépare-t-elle à un nouveau modèle de développement ? Qu'en pensez-vous ? Quelles sont vos propositions ? Madame Flaude, vous avez 3 minutes pour expliquer.
Ce que je pense de l'action de l'Europe, je crois que chacun l'a vu. L'Europe a été complètement absente au G20, par exemple, et complètement absente en matière de grandes initiatives pour répondre aux défis dans lesquels nous sommes, qui est multiface. On voit bien la crise sociale, évidemment. On la voit tous les jours. On a vu la crise bancaire. Mais nous avons aussi, comme jamais dans l'histoire de l'humanité, une crise alimentaire, l'épuisement de nos ressources naturelles, les changements climatiques qui affectent déjà la vie de millions, de dizaines, de centaines de millions de personnes aujourd'hui sur la planète, très gravement, les forçant à quitter leur terre. Ces crises, nous allons y répondre au niveau européen, pas par des plans de relance nationaux, pas en mettant, par exemple, dans le secteur automobile, la concurrence entre les constructeurs allemands et les constructeurs français. Nous voulons et nous proposons un plan de conversion écologique de l'économie au niveau européen. C'est la seule manière aujourd'hui de répondre aux questions qui sont posées, aux défis qui sont posés. Lesquels ? Ceux de la création d'emplois. La conversion écologique de l'économie peut créer rapidement dans les années qui viennent 10 millions d'emplois. Dans quel secteur ? Par exemple, le secteur de l'énergie. Nous faisons ici le choix en France du nucléaire. C'est un choix stupide. Je l'illustre d'une manière. En investissant dans l'efficacité énergétique et dans les énergies renouvelables, vous créez, avec la même somme, 15 à 20 fois plus d'emplois, des emplois qualifiés, des emplois non délocalisables, et qui vont faire quoi ? Qui vont faire baisser la facture de chauffage, donc augmenter le pouvoir d'achat des personnes, qui vont économiser l'énergie, donc qui vont faire du bien à la planète et à notre santé. Voilà le type de projet que nous voulons développer. Mais nous allons aussi proposer la conversion de la politique agricole. Prendre résolument aujourd'hui le chemin d'une agriculture paysanne, familiale et de développer le bio. La France est à la traîne sur le bio. 17% des terres en bio en Suède, 2% en France. Ça ne peut plus durer. Tout le monde aujourd'hui veut manger mieux, avec des circuits courts, avec des paysans qui soient respectés. Voilà un chantier de conversion qui est capable de créer, dans les années qui viennent, plus d'1 million d'emplois en Europe. Le secteur des transports. Secteur des transports, vous pouvez créer dans le développement des transports publics qui est vital aujourd'hui. On va passer, on le sait, d'un modèle qui est celui de la propriété individuelle des voitures au droit à la mobilité pour tous. Et ce droit à la mobilité pour tous, il va passer par le développement de transports publics et de transports doux. Ce sont aussi des emplois que les secteurs de l'automobile où les salariés aujourd'hui souffrent énormément, des secteurs dans lesquels ils pourront se reconvertir. Et nous allons proposer que ces salariés qui sont aujourd'hui en danger, en chômage partiel, en plan de licenciement, bénéficient d'un bouclier social européen. On ne peut pas demander aux salariés de payer le prix de la crise. Les salariés, et comme les usagers et comme les consommateurs, pour transformer à la fois l'économie, mais les modes de vie, les modes de consommation, les modes de développement, c'est ça l'avenir, doivent être confortés, garantis dans leurs droits et garantis dans leurs revenus.
Merci beaucoup, Madame Flautre, d'avoir exposé votre conception de l'Europe économique. Alors maintenant, Monsieur Jan Powels, pouvez-vous nous présenter votre conception du modèle de développement que vous souhaitez ?
Oui, mais tout d'abord pour répondre à la question, savoir si l'Europe répond à la crise et fait le nécessaire pour sortir les économies de la crise. Je pense que évidemment la première chose à dire, c'est que l'Europe elle est responsable en partie, c'est pas la seule, mais elle est responsable. C'est un des outils qui sont responsables de cette crise, avec d'autres outils internationaux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'OMC, mais aussi la politique des gouvernements nationaux, celle de Sarkozy actuellement, mais aussi les politiques qui ont été menées depuis 25 ans par les gouvernements en France et dans les autres pays européens. Et cette Union européenne, ça a été un outil qui a été créé par ces gouvernements depuis 50 ans, qui a toujours été un outil pour le libéralisme économique. C'est une zone de libre-échange au départ. C'est ça l'objectif de l'Union européenne. Et quand en 2005, on nous fait une constitution et on nous dit que ça va devenir un espace politique, c'est uniquement pour graver dans le marbre que ces politiques libérales sont la marque de fabrique, sont l'essence même de l'Union européenne. Donc, de fait, l'Union européenne, au niveau de la crise économique, en est largement responsable en tant que système organisé pour le libéralisme. Et si aujourd'hui on peut passer à un moment, on peut espérer, des gens peuvent défendre qu'il faille passer d'un système qui est celui de garantir toujours plus de profits pour quelques-uns, de privatiser les profits, et aujourd'hui en temps de crise on va créer des systèmes pour socialiser les pertes et dire on va tous partager les pertes, quand c'est des profits c'est pour quelques-uns, quand c'est des pertes il faut tous les partager, mais ça c'est la logique habituelle du capitalisme, ça a toujours été comme ça, le capitalisme produit ses crises, les fait payer au plus grand nombre, et quand il produit des profits, il les accapare pour quelques-uns, donc il n'y a pas de changement de logique aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, et il n'y en a pas dans ce que défendent les partis qui ont été au gouvernement depuis 25 ans et même avant. Et donc aujourd'hui, l'alternative, la question de nouveaux modèles économiques, on sait que ça passera pas par des demandes à faire au sein de ces institutions dont le seul but est d'organiser cette économie libérale et d'organiser cette économie capitaliste. On pourra toujours demander, il n'y aura jamais rien, comme il n'y a rien eu, tout ce qu'a eu la population, tout ce qu'ont eu les salariés depuis toujours, c'est quand ils se sont battus, c'est des choses qu'ils ont eues à la libération, des choses qu'ils avaient eues en 36, les congés payés, c'est mai 68 et l'augmentation des salaires, la création du SMIC. Et donc aujourd'hui, c'est par les luttes que les salariés imposeront un nouveau modèle économique. C'est aujourd'hui, ça commence demain le 1er mai, et c'est l'exemple de la Guadeloupe où les salariés nous ont montré en Guadeloupe qu'unis, déterminés sur des revendications claires et qui concernent des choses concrètes de la vie de tous les jours, on pouvait aussi faire vaciller un système économique qui est présenté comme le seul pouvant exister, qui est présenté comme le système démocratique par essence, alors que la démocratie, c'est sûrement pas quelques-uns qui s'accaparent tous les profits et la plupart qui les produisent les richesses et qui en bénéficient pas. Donc aujourd'hui, oui, c'est s'unir dans la lutte, c'est rassembler la majorité de la population, c'est pas aller chercher des boucs émissaires comme malheureusement ça se fait aujourd'hui dans toute une série d'Europe, parce que ça aussi c'est l'histoire du capitalisme. À chaque fois qu'il y a des crises, eh ben, on va trouver des gens, on va mettre en avant, on va aller chercher des boucs émissaires, c'est la faute de ceux-ci qui viennent, c'est la faute de ceux-là, ça va être la faute, on voit toutes les politiques qui sont menées dans leur Pas-de-Calais vis-à-vis des Roms qui seraient la faute, on voit ce qui se passe à Calais avec les migrants qui souffrent de ce qui se passe, qui souffrent des politiques.
Merci de conclure.
Oui, je te conclue, qui souffrent des pays, des politiques des pays européens, notamment la France avec toutes leurs politiques, toutes leurs guerres, qui sont obligés de fuir, et aujourd'hui on leur dit que c'est eux les victimes. Et bien nous, on veut mener une politique qui permette à la majorité de la population de se rassembler et de ne pas chercher des boucs émissaires parmi elles.
Merci de votre intervention. Eh bien, l'on va passer la parole, bien sûr, à Madame Corinne Lepage pour la même question. À savoir, l'Europe fait-elle le nécessaire pour sortir nos économies de la crise ?
Écoutez, je pense qu'il y a de grandes chances qu'autour de cette tribune, on soit tous d'accord pour dire non. Et qu'on dise notre déception. Certes, très probablement, l'euro a été une forme de matelas par rapport à ce que nous aurions supporté si nous avions été avec des monnaies nationales. Il n'en demeure pas moins que l'Europe a été défaillante. Et elle l'a été d'autant plus qu'elle pourrait aujourd'hui, effectivement, nous permettre de prendre l'évolution indispensable pour s'adapter aux crises. Car ce que nous vivons n'est pas une crise, mais des crises. Crise économique et financière, crise sociale, crise environnementale, crise climatique, crise alimentaire, et peut-être demain, par-dessus le marché, cerise sur le gâteau, crise épidémique. Donc, comment faire ? Je très rapidement et sur trois points. Premièrement, je partage largement ce qu'a dit Madame Flautre. L'Europe doit être le moteur d'une économie sociale, c'est-à-dire d'une économie axée précisément sur l'économie verte avec un volet social extrêmement important. J'attire votre attention sur le fait que dans les plans de relance qui ont été mis en place au niveau mondial, 440 milliards de dollars ont été consacrés à l'économie verte. Il y en a 200 pour la Chine, il y en a 160 pour les États-Unis, il y en a 45 pour la Corée et le reste pour le reste du monde. Ça veut dire que l'Europe, qui a porté pendant des années et des années le protocole de Kyoto, qui a porté l'idée d'un développement durable est aujourd'hui en train de rater le coche de l'investissement dans les industries qui seront celles du 21e siècle. Nous avons besoin d'une politique industrielle européenne autour précisément de l'économie verte. On a parlé tout à l'heure des énergies renouvelables. Il y a toute l'efficacité énergétique, les nouveaux matériaux, la capacité d'utiliser l'agriculture effectivement pour l'alimentation, mais également avec les biocarburants de la deuxième génération pour l'énergie et pour la chimie verte, qui devra en 2020 représenter 20% du total de la chimie. Deuxième point, ce qui concerne la gouvernance financière. Nous ne nous en sortirons pas sans mettre en place une véritable gouvernance financière au niveau européen. Elle est aujourd'hui totalement absente. Et il est pour le moins dramatique de voir que les orientations qui sont discutées aujourd'hui sont beaucoup moins ambitieuses que ne le sont les projets américains. Où va-t-on ? Où va-t-on ? Il faut remettre sur la table la question des rémunérations. Il faut mettre sur la table la question de l'encadrement des fonds, d'aller beaucoup plus loin dans les paradis fiscaux que ce que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui, où c'est très franchement du cosmétique, voire de la communication. Eh bien, c'est au niveau de l'Europe qu'il faut précisément lancer ces politiques. Le troisième point, et je ne sais pas combien de temps il me reste, mais enfin je vais le dire quand même, c'est tout ce qui concerne la recherche, l'innovation, la formation, la reconversion. Oui, nous entrons dans une société où nous allons avoir à vivre une reconversion industrielle à l'égard de laquelle celle, et notamment que cette région a connue il y a une 30 ou 40 ans, ne sera rien. Nous avons à réinventer une industrie du 21e siècle. C'est avec la formation que nous le ferons.
Merci, Madame Lepage. Monsieur Jacques Hénin, que pensez-vous de l'Europe économique ?
Écoutez, quand vous dites « l'Europe est-elle responsable ?», je réponds « non, l'Europe n'est pas responsable ». Comme je réponds « non, la majorité des citoyens qui sont dans cette pièce ne sont pas responsables ». Et la question n'est pas posée comme il faut. Ceux qui ont la majorité et qui prennent les décisions, sont-ils responsables de ce qui s'est passé hier et de ce qui se passe aujourd'hui ? Oui, parce qu'ils ont des majorités pour déterminer la ligne politique qui doit être menée sur le territoire européen. Et c'est eux qui ont déterminé, tout au long de ces années, les règles de fonctionnement de l'économique. L'économique, n'oublions jamais que c'est aussi des hommes, des femmes, des familles qui en tirent de la richesse pour en vivre. Or, cette crise que nous connaissons, elle n'est pas seulement la crise de quelques banquiers ou de quelques traders. Elle est une crise profonde parce que depuis des dizaines d'années, au niveau européen, on compresse les salaires, on compresse les retraites, on compresse le pouvoir d'achat des salariés. Il y a 15 ans, un salarié pouvait acheter une voiture en empruntant sur 5 ans. Aujourd'hui, il ne le peut plus. On a créé les conditions qu'à un bout de l'échelle, les uns deviennent immensément riches, alors qu'en bas de l'échelle, les autres sont de plus en plus dans la souffrance et ont les pires difficultés. Alors, pour faire clair et précis, parce que 3 minutes, c'est court, vous nous demandez, prennent-ils les bonnes décisions ? Eh bien, je vais vous donner une image. On a une équipe de football qui va affronter la demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est la première fois dans sa vie qu'elle va le faire. Et on a un entraîneur européen qui est un type formidable. Il fait courir l'ailier droit le plus vite possible. Il fait courir l'ailier gauche le plus vite possible. Et il leur dit, vous courez tout droit. Il dit à l'arrière, toi tu cours en marche arrière le plus vite possible. Il dit à l'arrière gauche, tu cours le plus vite possible. Sauf qu'à un moment donné, il a oublié une chose simple. C'est qu'il faut qu'ils jouent ensemble, qu'il faut qu'ils soient solidaires ensemble, qu'il faut qu'ils y mettent du cœur ensemble pour essayer d'avancer. Or, chacun joue son match, chacun joue sa partition et on ne pourra pas s'en sortir. C'est tellement vrai que prenez les bons élèves de l'Europe d'hier, ils sont aujourd'hui les bonnets d'âne de la classe. Un seul chiffre, en Espagne, le taux de chômage est passé de 2,2 millions de chômeurs à 4 millions de chômeurs et on annonce 1 million de chômeurs supplémentaires. Eh bien, enlevons comme règle unique de conduite au niveau européen le libéralisme, la construction du profit, construisons une Europe de coopération, de mouvement, de recherche, Airbus, Ariane, tout ça ce sont des réussites européennes et nous parviendrons à inverser les choses.
Merci. Merci monsieur Hénin. Monsieur Gilles Pargneau, votre analyse.
Tout à l'heure je disais donc le désamour existe fortement. Et donc, il nous faut une autre politique économique à l'échelle européenne. Et pour cela, les socialistes européens, que je représente ici ce soir, nous avons trois grandes propositions concrètes à l'échelle européenne. La première proposition, nous souhaitons la mise en place d'un grand plan de relance en matière d'investissement, infrastructures ferroviaires, mais aussi logement social. Vous avez peut-être lu et ou entendu Jacques Delors récemment, qui disait « Mais quel est ce silence assourdissant de l'Union européenne dans le cadre de cette nécessité d'un plan de relance à l'échelle européenne ?» Car, on le sait, et les intervenants précédents l'ont dit, un plan de relance à l'échelle nationale, quel qu'il soit, même si en France on en a un qui est trop insuffisant, eh bien, on n'y arrivera pas. Il faut que nous soyons à l'échelle de ces 492 millions d'Européens. Et pour ce faire, pour mettre en place ce plan de relance à l'échelle européenne, nous avons deux outils financiers. Nous souhaitons tout d'abord faire en sorte que le budget européen soit bien plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il est de 133,8 milliards d'euros. C'est trop insuffisant. Là aussi, nous n'avons pas un budget européen à l'échelle de ce que nous sommes. Et nous voulons ainsi faire en sorte que ce budget européen demain représente 2% du revenu net par habitant dans chacun des États membres, alors qu'il est aujourd'hui de 1,24%. Nous voulons aussi que l'Union européenne puisse lever l'emprunt. Ce n'est pas autorisé par le traité actuel, mais nous souhaitons faire en sorte que demain, nous puissions faire évoluer les traités qui, le traité de Lisbonne, il faut le rappeler, ne borne pas la mise en œuvre des politiques pour demain que les socialistes européens veulent mettre en œuvre. Deuxième grande priorité que nous voulons mettre en place et que nous indiquons dans notre programme électoral pour ce 7 juin, c'est la mise en place d'un pacte pour l'emploi, un pacte de protection des salariés. J'étais la semaine dernière avec les syndicats de PPG, où on avait une entreprise qui a plusieurs sites en Europe et qui, parce que la décision prise par les actionnaires à Pittsburgh est de dire « ça coûtera moins cher de fabriquer pour cet équipementier automobile, c'est-à-dire de la peinture, en Tchéquie, plutôt que de rester ici, dans le Valenciennois ». Eh bien, nous souhaitons faire en sorte qu'une négociation collective à l'échelle européenne puisse voir le jour pour la mise en place de comités d'entreprise à l'échelle européenne. Et puis, troisième grande priorité que nous voulons développer sur ce nouveau modèle de développement économique, l'Europe n'est pas une économie de marché, c'est une économie sociale de marché. Et donc, nous voulons faire en sorte que le service public soit prédominant pour, là aussi, permettre que ce soit la poste, que ce soit le rail, pour faire en sorte que nous puissions revenir par rapport à des décisions prises antérieurement.
Merci. Merci. Monsieur Gilles Pargneau, d'avoir exposé votre vision de l'avenir économique de l'Europe. Monsieur Frédéric Nius.
Eh bien, en fait, non, l'Europe ne fait pas le nécessaire pour sortir justement l'Union européenne de la crise, pour une raison toute simple, c'est qu'elle en est complice. Elle en est complice par tout un ensemble de mesures. Bon, on a parlé de l'euro. La politique de l'euro fort a fait que ça a déséquilibré à la fois notre système d'importation et d'exportation. Vous avez vu tous la flambée des prix avec le passage à l'euro. Pratiquement tous les produits ont augmenté autour de 30% depuis. Donc c'est pas comme ça qu'on peut y arriver. L'Europe a également participé à cette crise. Notamment, j'ai entendu mon voisin parler de service public, mais c'est bien, c'est que le service public, il est démantelé justement par l'Union européenne également. En ouvrant à l'ultra-libéralisation, elle est partagée par les deux. Je rappelle quand même le sommet européen de Barcelone qui a libéralisé les services publics justement et assuré cette casse aussi de ces services publics. C'était gauche et droite confondus, c'était un gouvernement de cohabitation. Donc on a une Europe qui est capable de réagir en deux jours pour sauver les banquiers et les spéculateurs comme elle l'a fait au mois d'octobre et qui est incapable de trouver des réponses à court terme, moyen terme ou long terme pour empêcher les délocalisations, toute la fermeture des entreprises qu'on peut constater dans notre région. Donc le service public qui est démantelé, l'euro qui ne nous aide pas du tout sur les circuits économiques, une Europe passoire également qui, justement, parce qu'elle croit à la mondialisation, on voit toutes les positions qu'elle adopte au niveau de l'OMC, fait qu'on est une passoire et tous les produits intègrent l'Europe en venant de pays à bas salaire, à très bas salaire, du dumping social, pas de protection environnementale, pas de protection sociale et autres. Et comme ça, ça ne peut pas marcher. Donc nous, ce qu'on propose, c'est qu'on passe du libre-échange au juste échange. Il ne s'agit pas de parler de protectionnisme, il s'agit simplement de parler d'équité. C'est-à-dire de mettre des digues économiques, des digues douanières aux frontières de l'Europe, justement pour compenser ça et revenir à un système de concurrence loyale avec les pays extra-européens. Parce que sinon, de toute façon, on ne tiendra jamais, on ne pourra pas lutter. Et tout ce qu'on verra chez nous, bah, c'est simplement la continuité justement de toutes ces entreprises, de toutes ces usines qui ferment et qui partent ailleurs. Alors si l'Europe a vocation à devenir uniquement une zone touristique, il faut le dire aussi au niveau de l'Union européenne. Mais là, actuellement, c'est plutôt ce qu'elle est en train de faire. Et je crois qu'on a besoin d'avoir une Europe qui va venir plutôt soutenir, relocaliser nos emplois par une Europe des territoires. Hein, qui va se revenir sur de la proximité, sur du soutien au développement des territoires. Je crois que c'est comme ça que ça passera, parce qu'une Europe bancaire, une Europe des spéculateurs, ça ne peut pas fonctionner. On en a la preuve depuis le mois d'octobre.
Merci beaucoup, Monsieur Frédéric Nius et Madame Marine Le Pen.
Écoutez, ça aurait été bien dommage de limiter ce débat, somme toute, aux représentants des partis qui ont des groupes au Parlement européen, puisque tout à fait évidemment, ils portent l'incontestable responsabilité de l'Europe qui s'est construite depuis 30 ans. Ils l'ont construit, ils l'ont accompagné, ils en ont fait la promotion, ils ont voté Maastricht, nous ont imposé l'euro, en nous expliquant que l'euro allait apporter l'emploi et la croissance. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. La zone euro est la première à être entrée en récession, avant même les États-Unis, qui sont pourtant l'œil du cyclone. Comme l'a rappelé tout à l'heure M. Nius, les prix sur les 250 produits les plus achetés ont augmenté de 30% depuis l'instauration de l'euro. En 30 ans, l'Union européenne a détruit consciencieusement toutes les protections économiques nationales et a livré nos secteurs économiques et industriels à la concurrence évidemment déloyale de pays à bas coût de main-d'œuvre. C'est vrai pour l'industrie, c'est vrai aussi pour l'agriculture, c'est vrai pour la viticulture. Je vous signale tout de même qu'ont disparu l'industrie de la mine, du jouet, de la chaussure, de l'électroménager, de la bijouterie, du textile, de la sidérurgie, de la métallurgie, de la construction, de la réparation navale, et j'en passe et des meilleurs, l'industrie automobile va peut-être suivre. En 35 ans, nous avons perdu 2,5 millions d'emplois industriels, 4 millions d'emplois agricoles, 1,5 million d'emplois dans le petit commerce. Ça, c'est le bilan de votre Union européenne. Excusez-moi, parce que, M. Pargneau, moi je veux bien l'Europe, oui, mais solidaire. On nous a déjà fait le coup il y a 15 ans. Ça, c'est la profession de foi de M. Rocard aux élections de 1994. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on nous promet une Europe, oui, mais solidaire. Elle ne sera pas solidaire parce qu'elle est profondément ultralibérale. Elle ne remettra pas en place les frontières parce qu'ils veulent faire de l'Europe un grand supermarché. Que ce ne sont pas les citoyens européens qui les intéressent, ce sont les consommateurs. Par conséquent, tout ce qui peut limiter, réguler leur capacité de commerce, tout cela, ils l'ont supprimé méticuleusement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien exactement l'inverse. Il faut remettre évidemment en place des frontières économiques. Il faut évidemment mettre en place des protections douanières. Il faut protéger nos secteurs économiques de cette concurrence déloyale. Madame Flautre, tout à l'heure vous nous dites qu'il faut manger mieux et que tout le monde veut manger mieux. Ben pour manger mieux, il faut contrôler les produits qui entrent aujourd'hui librement chez nous. Parce que je suis désolée, mais les fauteuils chinois qui entraînent des maladies graves de la peau, parce que les bottes chinoises qui entraînent des maladies graves de la peau, parce que les jouets toxiques qui sont vendus à nos enfants ne sont pas contrôlés, parce qu'il n'y a plus de frontières. Et quand il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de contrôle. Alors, monsieur Hénin, moi, je serais presque d'accord avec votre constat. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant qu'on est internationaliste, tant qu'on refuse la mise en place de frontières, on ne pourra pas s'opposer à cette Europe ultralibérale et libre-échangiste, parce que c'est justement le libre-échangisme qui est à la base de la destruction de notre économie et de nos industries. Alors, il faut remettre des frontières. Il faut arrêter cette libre circulation folle des êtres humains, des produits, des capitaux qui nous a entraînés là où elle est. Et lorsqu'on ne peut pas délocaliser, lorsqu'ils ne délocalisent pas les industries à l'extérieur, eh bien, ils délocalisent en faisant venir de l'immigration à bas coût de main-d'œuvre. C'est ça leur objectif. C'est en réalité de faire venir des immigrés pour les payer moitié moins. Pas ça, c'est un nouvel esclavagisme. Et nous, nous luttons contre ce système-là parce qu'il est profondément, je crois, criminel pour nous et pour les autres.
Merci de votre intervention. Alors, sur cette question économique, la parole est maintenant à Monsieur Dominique Riquet.
Écoutez, après ces plaidoyers anti-européens, moi je représente un mouvement qui est tout à fait pro-européen. Alors la première chose que je voudrais rappeler quand même, c'est que l'Europe a été un espace et reste un espace de prospérité dans le monde exemplaire. Que défendu par une monnaie unique, on a fait progresser la richesse de cette Europe de manière très spectaculaire, que le pouvoir d'achat a augmenté de manière très spectaculaire et que les inégalités se sont réduites. Mais attendez, non mais personne ne dira le contraire. Attendez, mais je vais venir à la crise après.
S'il vous plaît, laissez l'orateur s'exprimer.
Moi, j'ai le privilège d'être le seul à être sifflé. Quand même. Non mais, je veux dire que si on prend une prospective à 30 ans, ce que je viens de dire est absolument, même si vous sifflez, c'est absolument non contestable. Alors, nous sommes maintenant dans une période d'émotion, avec une crise extrêmement forte qui nous angoisse beaucoup. Bien. Moi, je voulais faire une première constatation. C'est premièrement, on est maintenant, qu'on le veuille ou non, dans une économie et dans un système qui est mondialisé. Et on ne reviendra pas en arrière, parce que ça n'est pas possible. Moi, j'entends qu'on va remettre les frontières, les taxes, etc. Plaisanterie. Je rappelle d'ailleurs que l'Europe représente non seulement le plus grand marché, mais le plus grand producteur de biens, le plus grand exportateur avant même les États-Unis. Bien. Donc, il faut savoir que s'enfermer, ce serait nous punir nous-mêmes. Que cette économie de marché dans laquelle nous vivons, c'est la moins mauvaise des solutions, puisque l'économie administrée a démontré partout où elle a été appliquée que non seulement elle était un échec économique, mais qu'elle a mené à l'aliénation des populations. Alors, évidemment, je suis d'accord avec ce qu'a dit, je crois que c'est Corinne Lepage, sur l'économie sociale de marché. Bien entendu, l'économie de marché, ce n'est pas une économie aveugle. Et ça doit être une économie sociale. Alors, je crois effectivement qu'il y a un problème avec l'Europe. C'est-à-dire, je crois qu'il faut plus d'Europe, mais il faut une Europe beaucoup plus active sur le sujet. Ça, c'est clair. Et donc, effectivement, nous pensons que dans la crise que nous avons, il y a trois voies, elles ont d'ailleurs été évoquées par d'autres. Il y a premièrement la régulation financière, parce que la crise, elle est d'origine financière. Bon, parce que l'économie de marché, c'est du capital, du travail et de la création de richesses. Et vous ne supprimerez aucun de ces trois éléments. S'il n'y a pas de travail, effectivement, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de capital, ça ne marche pas. Et donc, il n'y a pas de richesse. Le rééquilibre entre le capital et le travail, c'est un sujet, mais qui, pour l'instant, n'est pas traité à l'échelle européenne. On peut en discuter. D'ailleurs, je pense qu'on en discutera avec les problèmes sociaux. Donc, nous avons besoin d'une finance réellement régulée et contrôlée. Je l'ai entendu et moi je suis complètement d'accord. Et là, il faut que l'Europe s'avance parce qu'il n'y a pas de réponse à cette crise en dehors de l'échelle européenne. Les nations d'Europe prises séparément n'ont aucune capacité à répondre à la crise. Elles doivent le faire groupées. Il y a bien le bloc chinois, le bloc américain, le bloc européen et peut-être des blocs émergents. On ne répond pas à l'échelle d'un pays. Donc la réponse de l'Europe à ce propos, ça a été probablement d'être très moteur sur l'Eurogroupe et le G20 et d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait. Et je pense qu'à ce propos, il faut être très exigeant avec l'Europe.
Merci.
Oui, j'ai pas fini.
Vous avez passé les trois minutes.
Oui, mais j'ai été interrompu.
On vous a laissé un temps supplémentaire. Alors, terminez votre phrase, terminez votre
conclusion. Oui, j'allais dire qu'il faudra aller à une coopération économique et que je partage l'avis qui a été exprimé deux fois par Mme Flotre et par Corinne Lepage, qui sont qu'on doit aller vers une économie de développement durable qui est un gisement d'emploi extrêmement fort.
Bien, mesdames et messieurs, vous avez vu combien sur cette question de la présence économique et de l'Europe économique, les points de vue des différents représentants des partis ici présents sont opposés parfois. Alors, il a été un point qui a été abordé, et un seul. Et sur ce point-là, je voudrais bien que chacun d'entre vous vous exprimiez. Et je remercie en particulier M. Gilles Pargneau d'avoir eu le courage de dire, et je l'en félicite, l'Europe, pour être efficace, doit disposer d'un budget. Car la politique économique, ce ne sont pas exclusivement des mots. Alors, parmi vous qui êtes ici, qui avez pratiquement tous remis en cause le rôle économique de l'Europe, êtes-vous favorable, oui ou non, à l'augmentation du budget européen et à la création d'un impôt européen ? Merci. et on va prendre l'ordre, Madame Flautre, en commençant par vous, de répondre simplement à cette relance un peu sur cette question.
Oui, bien sûr, l'investissement massif dans la conversion, si, parce que c'est pour le prochain débat non, que mon voisin débat, va commencer.
C'est bon, c'est
ils
dans
n'ont rien
ordre.
Compris
c'est
à parfait. La règle du jeu.
Voilà, exactement.
Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure d'un investissement massif européen dans la conversion écologique de l'économie. Alors, investissement massif, il faut pouvoir tirer des euro-obligations, il faut un budget beaucoup plus conséquent, et il faut donc des recettes propres. Il faut des recettes propres. Ça veut dire qu'il faut une fiscalité européenne. Aujourd'hui, nous sommes dépendants, en quelque sorte, des budgets alloués maigres. Hein. C'est toujours un enjeu de discussion très, très âpre. Pour allouer dans les budgets nationaux le budget européen. Donc il faut des recettes propres, il faut une fiscalité donc européenne. Nous, nous proposons une taxe climat-énergie qui fiscaliserait donc la consommation d'énergie non renouvelable et qui donc serait une impulsion forte pour la conversion écologique de l'économie. Est-ce qu'on peut faire ça avec Lisbonne aujourd'hui ? Une fiscalité, on décide à l'unanimité. Un emprunt très important, on ne le peut pas. Est-ce qu'on peut augmenter sensiblement le budget ? Pas dans les proportions souhaitées. Donc le traité de Lisbonne, je dirais qu'il est déjà dépassé. Il est dépassé, les défis devant lesquels nous sommes aujourd'hui obligent à attention, penser tout de suite un instrument, une constitution, qui soit vraiment à la hauteur des défis et des ambitions européennes aujourd'hui.
Merci, parce qu'il y a une minute pour la réponse à cette question. Alors, évidemment, la même question à M. Jan Powels.
Moi, ça dépend. La question de savoir s'il faut un impôt européen, s'il faut augmenter le budget européen, c'est pas, la question c'est pourquoi faire et sur qui. Si c'est pour payer, si c'est pour que l'ensemble des salariés qui sont déjà, même s'il paraît que le pouvoir d'achat augmente de façon phénoménale depuis des années, bon, et que ça fait juste 3 mois que ça baisse, je pense qu'on n'a pas les mêmes, forcément le même rapport à la réalité. Mais toutes les populations qui subissent déjà la crise, qui subissent les inégalités, etc., depuis des années, si c'est pour rajouter un impôt et pour faire financer par la majorité de la population des choses qu'on pourrait financer autrement, parce qu'il y a de l'argent, il y a des entreprises qui font des profits en France et partout en Europe, c'est ça la question. C'est qui paye pour qui ? Moi, si demain on fait un impôt européen sur toutes les entreprises qui font des profits énormes et qui se les gardent pour elles, si on fait un impôt pour financer une augmentation de salaire pour l'ensemble de des salariés de toute l'Union européenne, pour qu'il y ait un SMIC européen qui soit l'équivalent de 1 600 € net en France, bien sûr, je suis pour un impôt européen dans ce cas-là.
Merci, monsieur. Madame Corinne Lepage ?
Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut plus de moyens pour l'Europe. Le budget de 1% est notoirement insuffisant pour faire ce qu'on a à faire. Nous sommes également pour un très grand emprunt européen. C'est vrai qu'il faut modifier les règles du jeu. Bernard Le Hideux a proposé une résolution en ce sens, mais les règles du jeu restent à changer. Une taxe carbone, pourquoi pas, mais à la condition qu'à ce moment-là, les entreprises qui investiraient, qui entreraient en Europe des produits non taxés sur le carbone, payent une taxe aussi. Parce que sinon, bien entendu, c'est absolument incompatible avec une industrie européenne qui tient la route. Mais bien sûr, il faut considérablement renforcer les moyens de l'Europe. J'ajouterai juste 30 secondes. Si on veut aller vers l'harmonisation fiscale, ce que nous souhaitons, il faut bien entendu qu'il y ait plus d'argent pour aider les pays de l'Europe de l'Est qui nous rejoignent. Donc oui, bien sûr.
Merci, Madame Lepage. Monsieur Hénin,
je vais être provocateur, mais c'est une mauvaise question. Vous voulez nous faire discuter de 1% du budget des nations parce que c'est 1% et on n'aurait pas le droit de discuter de l'énormité des richesses qui sont produites à côté parce que c'est 1% des budgets. Et il faut croire que pour la France, c'est suffisant puisque sur le budget européen qui est de 1 point, il y a 0,50 pour la politique agricole commune et que la France n'est même pas capable de consommer les crédits qui sont mis à sa disposition parce que les méthodes pour aller chercher l'argent sont trop compliquées et que les collectivités n'y arrivent pas. Alors oui, il faut augmenter le budget européen, mais il est hors de question d'avoir un impôt européen et s'il en est un demain, on mène la guerre contre parce que ce n'est pas possible. Ce sont toujours les mêmes qui payent. Par contre, la richesse qui est produite à côté, il faut qu'elle laisse une part de sa richesse au développement, à la recherche, à faire en sorte qu'on puisse construire une Europe solidaire.
Merci, monsieur Hénin. Monsieur Pargnot.
Je partirai sur la conclusion de Jackie à l'instant.
une Europe solidaire. Oui, donc il faut une fiscalité propre. Il faut effectivement qu'il y ait un budget qui soit bien plus important pour permettre une solidarité plus forte et faire en sorte, comme l'a rappelé Hélène dans son propos, que l'on puisse mettre en œuvre par cette fiscalité propre un certain nombre de taxes qui fassent en sorte que nous puissions gagner et lutter contre cette pollution et contre cet effet de serre. Et donc il est important que les Européens sachent qu'il y a un levier économique qui est à mettre en œuvre. Et pourquoi ? Ce n'est pas uniquement par rapport au plan de relance. Nous, on a la région Nord-Ouest, là où nous sommes candidats, fait la fierté de la croissance économique française pendant les 30 glorieuses. Et puis après ces 30 ans de restructuration dans cette région Nord-Ouest, on a envie d'avoir des fonds européens qui puissent, dans un moment de récession économique comme aujourd'hui, qui puissent à nouveau nous aider pour redévelopper cette grande région industrielle, avec une politique industrielle forte que l'on pourrait mener pour notre région Nord-Ouest à l'échelle européenne. Voilà pourquoi il faut que nous ayons une fiscalité qui soit bien plus propre dans un budget plus important.
Merci, monsieur Pargnaud. Monsieur Nihous.
Écoutez, on discute, est-ce qu'on paye un nouvel impôt ou est-ce qu'on va faire un budget plus important? Moi, je rappellerai simplement une chose, c'est que la Cour des comptes européenne refuse de certifier le budget de l'Union européenne depuis près de 14 ans, en raison de son opacité, et voire des grosses questions, notamment en termes de légalité, que ça pose. Donc si c'est pour alimenter ça, c'est peut-être pas forcément la peine d'augmenter les impôts. On a une crise ici actuellement, la solution c'est pas de creuser un trou en en rebouchant un autre. Donc moi ce que je propose, j'ai entendu certains, Madame Lepage ou d'autres, proposer des nouvelles taxes, encore, on n'en paye pas assez, c'est vrai, on peut encore peut-être en rajouter, mais pourquoi la faire payer aux contribuables européens qui souffrent des délocalisations de l'Union européenne ici, ces taxes-là, d'accord, mais qu'on les fasse payer, comme je le disais tout à l'heure, par des digues douanières, en les faisant payer aux pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous et qui importent des produits sans arrêt chez nous et qui cassent l'emploi chez nous. Voilà, des taxes comme ça, d'accord, mais nos contribuables, ils en ont déjà assez comme ça, ils perdent déjà leur boulot avec cause de la politique de l'Union européenne, on ne va pas leur faire payer des impôts sur leur chômage en plus.
Merci. Madame Le Pen ?
Oui, bah écoutez, les mêmes mots qui frappent l'Europe frappent la France, puisque ce sont les mêmes qui ont dirigé l'Union européenne, qui ont dirigé la France depuis 30 ans. Bon, ça a donné la France, pays où la pression fiscale est la plus lourde du monde. Et on veut encore nous faire un impôt européen supplémentaire, alors que les Français n'en peuvent plus, qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Monsieur Pargnaud, vous nous dites « nous avons besoin des fonds européens ». Mais l'Europe ne nous verse que notre argent. Donne-moi ton portefeuille et je te filerai 100 balles. C'est exactement ce qu'elle fait. Nous sommes contributeurs nets à hauteur de 6,5 milliards d'euros par an. Nous donnons plus à l'Union européenne 6,5 milliards d'euros qu'elle ne nous rend. Eh bien, moi, je dis que c'est l'État-nation qui doit décider à qui va les aides. Et surtout, pour pouvoir décider à qui va les aides, Monsieur Pargnaud, il faut que nous cessions ce principe de la concurrence libre et non faussée qui interdit à l'État-nation d'aider ses entreprises, de protéger ses secteurs stratégiques et de protéger ses services publics. Voilà, ça, c'est la règle de base. Elle est bien plus importante que la manière dont vous allez dépenser l'argent que les Français n'ont pas.
Merci, Madame Le Pen. Non, monsieur, c'est monsieur Riquet, c'est la parole vous est donnée pour avoir votre sentiment sur cet impôt européen.
Bon, moi, je pense que si on est anti-européen, on est contre l'augmentation des moyens. Donc les deux dernières positions que j'ai entendues étaient cohérentes. La question c'est, j'ai entendu des discours qui étaient extrêmement destructeurs vis-à-vis de ce que faisait l'Europe, et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a été un espace de progrès, de prospérité, c'est la raison pour laquelle on défend cette idée européenne. Alors, augmenter les moyens de l'Europe en les adaptant aux nouveaux défis, j'ai pas eu le temps de terminer mon exposé, j'étais trop long, mais en les adaptant aux nouveaux défis, certes. Alors, le principe d'augmenter ou de les moyens, moi sur le principe on ne peut pas être contre, il y a deux préalables quand même qui me paraissent importants. Le premier c'est de revoir l'état actuel des financements, personne n'a abordé ce problème, ça a été abordé très vaguement en disant qu'il y avait des produits qui étaient des pays qui étaient contributeurs nets et d'autres pas, bon, ce qui est quand même un problème. Donc, par exemple le problème de l'Angleterre est un problème, qui elle est contributeur non net alors qu'elle a un équilibre qui est économique, qui devrait lui permettre d'être contributeur. Donc il y a premièrement à regarder l'état actuel des contributions, et si on augmente, il faut dire pourquoi on augmente. C'est-à-dire la question, c'est pas d'augmenter les moyens de l'Europe pour augmenter les moyens de l'Europe, c'est de dire pour quelle politique on augmente les moyens de l'Europe. Alors je pense que si effectivement on a des propositions politiques cohérentes, il faut augmenter les moyens.
Merci de terminer.